Je suis optimiste parce que je sais que finalement, on finira par trouver une solution, mais j'ai des réserves. Est-ce que ce retrait de Gaza sera définitif et total? Et ça, d'après ce que j'entends, il y a encore une présence qui reflète que les Israéliens n'ont pas donné une liberté 100% aux Palestiniens de Gaza. Et là, donc, j'espère que les Israéliens finiront par comprendre que on ne fera la paix qu'en traitant les autres d'égal à 100%. Et une autre réserve revient à ce qui sera le après Gaza. Donc, est-ce qu'il y aura un retrait semblable des territoires occupés? Est-ce que les Israéliens et les Palestiniens vont signer un accord de paix qui permettra de faire deux États, un Palestinien et un Israélien? Ça, c'est les questions que je me pose.
Mais est-ce que la paix dépend seulement des Israéliens? Il y a aussi le Hamas qui déclare vouloir continuer la lutte armée.
Celui qui fait la paix, c'est la partie la plus forte. C'est à l'occupant de se retirer et pas à l'occupé de se résigner. Et il est absolument clair que la partie la plus forte dans le conflit israélo-palestinien est Israël.
Vous avez l'air de ne pas croire à la bonne foi des Israéliens.
Et vous savez, en politique, il n'y a pas de bonne volonté, il n'y a pas de bonne foi. En politique, il y a des intérêts qui jouent. À moins que, et ça je le souhaite, que l'intelligentsia politique israélienne ait fini par comprendre que l'unique solution, c'est d'avoir deux États et pour ça, ils doivent se retirer. Et l'expérience de Gaza a donné la preuve qu'Israël, quand il veut se retirer, il se retire.
Est-ce que le retrait de Gaza n'est pas aussi un succès pour Mahmoud Abbas?
C'est un succès certainement pour Mahmoud Abbas parce que il a donné quand même une preuve de maturité politique et une preuve de pragmatisme. Il est peut-être moins charismatique qu'Arafat, mais au moins il a les idées claires et je pense qu'il est déterminé à arriver à la paix via les négociations pacifiques.
Alors, on sait qu'à Gaza, la population connaît une situation économique et sociale difficile. Est-il vrai que les chrétiens se portent encore moins bien que les autres?
Économiquement parlant, ils ne souffrent pas plus que les autres, ils souffrent peut-être moins que les autres. Parce que les chrétiens ont en ligne de principe un niveau de vie économique légèrement supérieur à celui des autres Palestiniens. En ce qui regarde la liberté religieuse, je pense que la Palestine n'a jamais été une fournaise de fondamentalisme anti-chrétien. Les chrétiens se portent bien. Le conflit n'est pas religieux. Et c'est de la perspective politique qu'il faut regarder le conflit. Et donc la solution est une solution politique et n'est pas religieuse.
Et pourtant, le nombre des chrétiens ne cesse de diminuer.
Il ne diminue pas numériquement, il diminue proportionnellement. La proportion des chrétiens diminue parce que les musulmans augmentent plus, mais le nombre des chrétiens, même avec l'immigration, augmente. Il y a toujours eu une église chrétienne en Terre Sainte, il y a toujours une église et il y aura toujours une église vivante en Terre Sainte. Pour nous, c'est une question de foi. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne permettra jamais que la Terre Sainte devienne un musée. Les chrétiens y sont et resteront.
Vous n'avez pas peur qu'ils payent les pots cassés tout de même?
Ils ne paieront pas les pots cassés et même s'ils doivent les payer, l'église de Jérusalem et l'église du Calvaire, Jésus-Christ a été le premier à payer les pots cassés et il n'est pas étrange que ceux qui portent ce nom paient quelques pots cassés, mais ça ne sera jamais la fin.
Dernière question, Monseigneur Laham, nous, que peut-on faire pour les chrétiens de Terre Sainte?
Aller en Terre Sainte, visiter les lieux saints, visiter les pierres vivantes, visiter les paroisses, rencontrer les chrétiens de Terre Sainte. Vous n'imaginez pas combien ça leur est précieux, moralement et spirituellement, de voir leurs frères dans la foi venir les voir, leur parler, prier avec eux.